Bonjour à tous. Encore une fois. C'est. Qu'est-ce que c'est? Le milieu. Oui, le 16 décembre et je me demandais si je devais porter une veste ou non aujourd'hui. J'ai du mal à croire que cela me rende un peu amer, mais je donne ce message pour m'aider à ne pas m'énerver parce qu'il ne fait pas froid. Cela prendra plus de sens au fur et à mesure que nous avancerons. Je vais nous ramener dans le passé, pas trop loin, selon l'endroit d'où vous venez. Si vous écoutez ce message aux États-Unis, vous devez revenir quelques semaines en arrière. Si vous écoutez ce message au Canada, le seul autre pays à célébrer cette fête, je crois, vous devez remonter à un mois environ. De quelle fête s'agit-il, que nous célébrons tous les deux, mais que l'un d'entre nous fête un mois plus tôt? Thanksgiving, l'action de grâce. Il faut donc revenir quelques semaines en arrière et je veux que vous vous souveniez de Thanksgiving. Pensez à ce que vous avez fait pour votre repas de Thanksgiving. Vous vous êtes peut-être assis avec des frères, qui pourraient être de la famille, et vous avez fait ce que vous aimez pendant cette fête. C'est l'une des rares fêtes que nous pouvons passer en famille pour profiter de ceux qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas dans l'église, que vous pouvez passer avec votre famille qui n'est pas dans l'église, même si vous êtes dans l'église, évidemment Noël et tous les autres ne fonctionnent pas, mais cette fête a un but. Elle a une raison d'être. Selon le pays où l'on se trouve, il y a les histoires et les pèlerins, ce qui n'est pas le cas au Canada. Mais les concepts remontent à l'idée de l'origine et de la raison pour laquelle ce jour a été nommé. On l'appelle le jour de Thanksgiving. Je vais vous lire une citation d'un auteur que j'aime beaucoup, et que vous connaissez peut-être, Jonah Goldberg. Il a écrit, Vous recevez beaucoup d'articles à cette période de l'année et à cette période de l'année sur la façon de travailler avec votre famille à ce moment-là. Comment éviter la politique, blablabla. Mais il écrivait un article qui disait, Thanksgiving est la seule fête qui demande aux gens de faire l'une des choses les plus simples, bien que parfois difficiles et les plus importantes qu'ils puissent faire, compter leurs bénédictions et exprimer leur gratitude pour elles. Eh bien, cela fait du soleil et des roses, n'est-ce pas? Rappelez-vous que j'ai dit que c'est la fête où vous pouvez rentrer chez vous et être avec votre famille qui n'est pas dans l'église. Cela peut être une chose merveilleuse. Ou si vous croyez la plupart des émissions de télévision, lorsque vous organisez ces grandes fêtes et tout le reste, cela peut être difficile. Cela peut être extrêmement difficile. C'est pourquoi vous avez tous ces articles. Comment ne pas parler de politique à la table de Thanksgiving? Comment ne pas en parler à Noël? Comment ne pas parler de l'autre, de vos affiliations politiques à Hanouka ou Kwanzaa, ou quoi que ce soit d'autre? Mais lorsque vous réunissez un groupe de personnes, une famille ou autre, une famille élargie, les choses peuvent ne pas se passer aussi bien qu'on le souhaiterait. Plus la famille est nombreuse, plus il y a de chances qu'il y ait des prises de tête ou des discussions, ou encore qu'il ait fait cela, et que ce qui est censé être une question de gratitude bascule très rapidement et devienne quelque chose de différent. Oh, ils ont obtenu ceci ou cette personne accomplit ceci, ou les grands-parents pensent que tel petit enfant est meilleur que tel autre. Quoi qu'il en soit, ce qui devrait être de la gratitude peut très vite se transformer en jalousie ou en envie parce que ce qu'ils ont, ce que je n'ai pas, littéralement le jour qui est censé être celui de la gratitude peut refléter le contraire. Et pourquoi dis-je le contraire? Parce que ces deux émotions, la gratitude et, pour simplifier, l'envie, sont essentiellement les deux faces d'une même pièce. J'allais sortir une pièce de monnaie et en montrer les deux faces. Puis j'ai réalisé que je ne savais pas où trouver une pièce. Alors je ne peux pas vous montrer les deux faces d'une pièce. Mais vous pouvez l'imaginer. Vous voyez l'envie d'un côté et la gratitude de l'autre. Elles sont intrinsèquement liées à la façon dont nous réagissons aux situations. Et ces deux émotions, qui s'entrechoquent sans cesse, font la différence entre l'entrée dans le royaume de Dieu et l'échec. C'est aussi simple que cela. Ces deux émotions, la gratitude et l'envie, peuvent faire la différence, selon celle qui tire le plus sur vous et moi, entre l'entrée dans le royaume de Dieu et l'échec. Pourquoi est-ce que je dis connecté? Pensez à la gratitude. Si vous êtes reconnaissante envers quelqu'un ou quelque chose, ou quoi que ce soit, vous appréciez, vous êtes heureux de ce que vous avez, vous êtes enthousiaste, vous êtes joyeux, vous êtes tout ce qu'il y a de positif dans l'expérience de quelque chose. Si vous êtes envieux, vous êtes à l'opposé de cela. Vous n'êtes pas reconnaissant de ce que vous avez. Vous voulez avoir ce que l'autre personne a, même si elle est reconnaissante, vous pouvez l'envier. Vous pouvez penser à vous, à moi, à nous tous, à cette lutte à la corde. Vous pouvez penser à ce jeu de tir à la corde. Il y a un groupe de personnes de part et d'autre et il y a cette petite ficelle attachée, au milieu qui pend, généralement d'une couleur vive. Eh bien, vous et moi sommes cette ficelle. Vous pouvez imaginer que les deux extrémités de cette lutte à la corde sont nos vies chrétiennes, allant et venant, tirant d'un côté la gratitude, le remerciement, la reconnaissance. De l'autre côté, il y a l'envie qui veut nous éloigner de la gratitude. Pourquoi est-ce important? Est-ce vraiment si dangereux? Est-ce vraiment si inquiétant? J'ai commencé par affirmer avec force qu'elle vous fera entrer ou sortir du royaume de Dieu, selon celui qui l'emportera. Est-ce vraiment important? Devons-nous nous en préoccuper? Devrions-nous vraiment nous inquiéter à ce point? Pensez-vous, monsieur Schloffé, je pense que vous exagérez. L'envie n'est pas si mauvaise. La gratitude est une bonne chose, mais elle n'est pas si cruciale. Voyons ce que nous avons appris aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons nous pencher sur la gratitude. La gratitude. Pourquoi devrions-nous être reconnaissants? C'est l'une de ces questions. Mais si vous vous arrêtez et que vous vous demandez quelle est la raison pour laquelle je devrais être reconnaissant, vous trouverez peut-être quelques idées qui vous viendront à l'esprit. Il se peut que vous ayez quelques idées en tête, que vous pensiez que cela signifie que j'apprécie les choses ou que c'est parce que je montre. Pourquoi? Spirituellement, pourquoi vous et moi devons-nous être reconnaissants? Quel en est le but? Pourquoi Dieu met-il l'accent sur ce point dans sa parole? Examinons quelques-uns de ces exemples et nous allons aboutir à quelque chose. Il relie d'un côté, encore une fois, la reconnaissance à un élément clé de ce que nous sommes en tant que chrétiens et l'envie à la destruction absolue de nos vies chrétiennes. Vous verrez, allons au livre des psaumes, psaume 136. Nous commencerons par là aujourd'hui. Parfois, des sujets simples dans la Bible et vous commencez à y regarder de plus près, et vous réalisez, oh là là, qu'il y a beaucoup plus que cela. Psaume 136, nous commencerons au verset 1. Le début est très simple. Le premier verset se lit comme suit, « Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon, et sa miséricorde dure à toujours. » L'une des raisons pour lesquelles on pourrait dire, rien qu'en lisant un verset, qu'il nous est ordonné d'être reconnaissant, c'est qu'il n'y a pas de raison de ne pas être reconnaissant. Pourquoi devrions-nous être reconnaissants? Pourquoi la gratitude est-elle importante? D'après ce verset, et lisons le verset 2, « Oh, rendez grâce au Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à jamais. » Verset 3. Rendez grâce au Seigneur des Seigneurs, car sa miséricorde dure toujours. On peut presque penser qu'il s'agit du Père et du Christ dans ce verset. L'une des raisons pour lesquelles la gratitude est importante, c'est qu'on nous dit de la pratiquer. Comme tout ce qui se trouve dans la Bible, si on nous dit de faire quelque chose, c'est de l'obéissance. Au niveau le plus simple, nous devrions être reconnaissants parce que Dieu dit que nous devons l'être, au moins envers lui. Nous verrons plus tard, mais pour l'instant, c'est la seule chose sur laquelle nous nous basons. Nous assemblons cette petite tour de blog pour créer une structure d'un côté pour la gratitude et de l'autre pour l'envie. Revenez au psaume 18. Jusqu'à présent, nous savons que nous devons être reconnaissants ou rendre grâce à Dieu parce qu'il nous le demande. Psaume 18, verset 24. Commencez au verset 24. Psaume 18. Je vous donne une chance d'aller jusqu'au psaume 19 et d'arriver enfin au psaume 18. Je sais. J'ai fait la même chose. Verset 24 du psaume 18. Voici le jour que l'Éternel a fait. Nous nous en réjouirons et nous en serons heureux. Puis on passe au verset 29. Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Le remerciement est très attaché dans ce cas à la miséricorde de Dieu. Mais c'est lui qui a fait la journée. Ce passage fait allusion à la reconnaissance. Vous savez de quoi il est facile d'être reconnaissant? Lorsque vous recevez ou que je reçois des choses que nous ne pourrions tout simplement pas faire nous-mêmes. Ainsi, si vous et moi pouvions créer une journée, nous ne serions peut-être pas aussi reconnaissants à Dieu d'avoir créé cette journée, ou si nous pouvions créer le soleil, serions-nous aussi reconnaissants pour le soleil qui chauffe la planète? Ce sont des choses qui dépassent largement ce que vous et moi pouvons faire. Il est facile d'être reconnaissant pour l'univers, l'air, le soleil, la pluie, des choses qui sont bien au-delà de ce que vous et moi pouvons faire. Il est souvent facile d'en être reconnaissant. Remontons plus loin dans le psaume 107. La miséricorde et les choses que Dieu peut faire et que nous ne pouvons pas faire, et franchement, on nous l'ordonne tout simplement. Mais encore une fois, c'est facile quand il s'agit de choses qui sont tellement plus grandes que nous. 107. Psaume 107, et nous allons lire le verset 8. Le huitième verset dit, « Oh, si les hommes louaient leur Dieu, je pourrais le chanter, je ne vous y forcerai pas, mais vous savez que ce verset est ce chant. Que les hommes louent leur Dieu pour ses bontés et ses merveilles envers les enfants des hommes. » Verset 9, « Car il rassasie l'âme avide et la remplit, et il rassasie ceux qui ont faim. » Ce n'est pas ce qu'il dit. C'est ce que dit l'hymne. Car il rassasie l'âme qui soupire et comble de bonté les affamés. Nous connaissons cet hymne, nous le chantons régulièrement. Louez le Seigneur. Il est dit au verset 8. Pour ses bontés. Cela nous donne des raisons de louer Dieu et de le remercier. Mais j'y reviens toujours et je reviendrai toujours à la même question. Pourquoi la gratitude est-elle importante? D'accord. Je pourrais arrêter le message après que Dieu l'a ordonné, n'est-ce pas? Parce que Dieu nous ordonne de respecter le sabbat ou de faire telle ou telle chose dans sa loi. Et en tant que chrétien, cela devrait s'arrêter là. Nous avons terminé. Mais comme ce n'est pas le cas et que notre Créateur nous donne ce livre qui va beaucoup plus loin dans le détail de chaque sujet qu'il nous dit de faire, et le pourquoi, c'est fascinant de montrer ce qu'il va construire. Alors, allons dans le Nouveau Testament pour commencer à comprendre pourquoi la gratitude est importante. Colossiens 3. Colossiens, chapitre 3. Il y a une parenthèse. Je suis là-haut en train de chercher. J'en ai 1, 2, 3. Nous ne serons pas dépassés. Il y a une horloge à l'arrière. Nous sommes très sûrs d'avoir le bon timing pour tout ce qui se passe ici au pupitre. Où en étions-nous? Oh, oui, Colossiens. Colossiens 3, verset 12. Le verset 12 dit, revêtez-vous donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns aux autres. Si quelqu'un a quelque chose à se reprocher, comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Pardonnez donc à ceux qui vous entourent. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de charité. Par-dessus tout cela, pardonnez-vous les uns aux autres, ayez des entrailles de miséricorde, de bonté. Par-dessus tout cela, revêtez l'amour, l'agapé, l'amour de Dieu, qui est le lien de la perfection ou de la complétude. Ainsi, l'amour de Dieu, le fait d'avoir l'amour de Dieu, nous le revêtons, ce qui nous rend complet parce que c'est ce que nous voulons devenir. N'oubliez pas que Dieu est amour. Nous voulons devenir Dieu et c'est pourquoi nous devons revêtir l'amour de Dieu. Verset 15. Et que la paix de Dieu. Parce que nous avons revêtu Dieu, nous avons revêtu l'amour de Dieu. Et que la paix de Dieu règne dans vos cœurs, à laquelle vous avez été appelés en un seul corps. Église de Dieu. Et soyez reconnaissants. Revenons un peu en arrière. Dieu nous dit de nous revêtir de ces choses, en fin de compte de lui, de l'amour, qui est la perfection ou la complétude. Et pour que la paix de Dieu règne dans notre cœur, il faut ajouter à cela la reconnaissance. Pourquoi la gratitude est-elle importante? Nous y reviendrons plus en détail. Mais pour ressembler à Dieu, nous devons nous revêtir de gratitude. C'est donc très important. Mais nous n'avons pas encore terminé. Nous pouvons encore ajouter d'autres éléments pour montrer que la gratitude, ce n'est pas seulement, c'est simplement dire merci quand il le faut. Et avant de terminer, nous parlerons d'autres façons de montrer notre gratitude dans un sens pratique. Donc, pour avoir l'amour de Dieu, nous devons accepter les choses, ou dans ce cas, cette conduite, avec gratitude. Philippiens 4. Philippiens chapitre 4, continuez à construire cela. Et commencez au verset 5. Philippiens 4, 5. Que votre modération soit connue de tous. C'est l'un de mes passages préférés parce que c'est la déclaration la plus générale que l'on puisse trouver dans la Bible sur la façon dont nous devons nous conduire dans tous les aspects de notre vie. Que votre modération soit connue de tous, le Seigneur est proche. Ceci, bien sûr, aujourd'hui plus que jamais. Ne faites attention à rien. Cela signifie en fait qu'il faut s'inquiéter pour rien. Ainsi, parce que vous êtes modéré, vous n'êtes inquiet de rien. Vous n'êtes pas inquiet, oh, que va-t-il se passer? Vais-je avoir des ennuis? Cela va arriver. Est-ce que je vais m'en sortir? Aurai-je de la nourriture? Ne vous inquiétez de rien, mais faites tout par la prière et la supplication, avec des actions de grâce. Faites connaître votre demande à Dieu. Donc, par la prière et la supplication, en demandant, en parlant à Dieu, mais cela doit se faire avec des actions de grâce. Pourquoi la gratitude est-elle importante? La gratitude est importante si vous voulez que Dieu réponde à vos prières. Tout par la prière et la supplication avec des actions de grâce. Et si cela arrive, si nous le faisons avec des actions de grâce, comme nous l'avons vu précédemment, la paix de Dieu, vous vous souvenez du verset 7 de Colossiens et du verset 4 de Philippiens, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Vous ne serez pas inquiets. Gardera vos cœurs et vos esprits par Christ Jésus. Si nous voulons être calmes dans notre marche chrétienne, aller dans des situations, pas seulement des situations spirituelles, cela peut être des situations de travail, d'école, quoi que ce soit, Si vous voulez être capable de marcher dans n'importe quelle situation avec une paix qui dépasse toute compréhension, nous devons aller à Dieu avec des actions de grâce. Pourquoi la gratitude est-elle importante? Parce qu'avec elle, nous recevons la puissance de Dieu en nous et nous pouvons faire face à n'importe quelle situation. Si vous voulez être capable de faire face à n'importe quelle situation, vous et moi devons être reconnaissants. Et dans ce cas, cela montre que la prière est une aide précieuse. Nous y reviendrons plus tard. Passons à la première épître aux Thessaloniciens. N'oubliez pas que nous n'examinons que la gratitude pour l'instant. Nous passerons bientôt à l'autre côté de la médaille. 1 Thessaloniciens 5. Commencez au verset 16. Nous pourrions commencer à différents endroits, mais 1 Thessaloniciens 5 et le verset 16. Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Ce n'est donc pas seulement au dîner que nous disons le bénédicité, ou que nous remercions Dieu pour la nourriture, ou que nous lui demandons ses bénédictions, ou lorsque quelqu'un ouvre la porte, ou. Non, non. On attend de nous que nous rendions grâce pour tout. Cela ne veut pas dire que vous vous promenez et que vous serrez la main de quelqu'un. Bonjour, merci. Et on vous tape sur l'épaule. Merci. On n'a pas de conversation. Eh bien, merci pour cela, eh bien, non, merci, merci, non, non, merci. Et la lumière s'allume. Oh, merci, la lumière. Non. Ce n'est pas idiot. Mais Dieu dit, non, je m'attends à ce que vous soyez couverts tout au long de votre vie. Le concept de gratitude doit être présent dans toutes les facettes de notre vie. Parce que, frères, vous et moi, contrairement à la plupart des gens sur Terre, avons tant de raisons d'être reconnaissants. Cela ne veut pas dire que c'est toujours facile. Nous verrons que cela ne veut pas dire que c'est toujours facile. Parfois, c'est en faisant preuve de gratitude dans les moments difficiles que l'on montre le caractère et l'amour de Dieu, ou le caractère de Dieu. C'est une partie constante de notre vie. Mais ce verset n'est pas terminé. Lisez la suite. Car telle est la volonté de Dieu et du Christ Jésus à votre égard. Alors, arrêtez-vous un instant et prenez cela en considération. La volonté de Dieu à mon égard ou au vôtre est que nous soyons reconnaissants en toutes choses. C'est la volonté de Dieu dans notre vie. Qu'aurait-il pu dire d'autre? Le caractère, le fruit, la patience, tous les aspects du fruit du. Dans Galates 5, tous. Non, non. Il ne dit rien de tout cela. Dieu dit, ma volonté dans votre vie par Christ Jésus, que vous revêtez du Christ, c'est d'être reconnaissant. Revenons donc à la question, pourquoi la gratitude est-elle importante? Parce que c'est la volonté de Dieu en nous. Mais, bien sûr, c'est la volonté de Dieu en nous parce qu'il est reconnaissant. Il veut que nous soyons lui. Il veut que nous soyons Dieu. C'est pourquoi vous et moi devons le faire. Nous devons être reconnaissants. Et la gratitude est un antidote à quelque chose d'autre. Elle bloque l'autre côté de la médaille. Plus nous sommes reconnaissants, et c'est pourquoi Dieu nous dit d'être reconnaissants, parce qu'il sait que vous et moi sommes sur cette corde qui est tirée d'un côté et de l'autre. L'envie d'un côté, la gratitude de l'autre. Et Dieu sait que c'est une lutte que nous aurons tous toute notre vie parce que vous et moi, nous ne sommes pas parfaits. Il y aura donc des moments où vous regarderez les choses des autres et où vous vous direz, « Oh, d'accord. J'aime cela. Je le convoite. » Ou vous êtes envieux de quelque chose. C'est ce que nous disons généralement en tant que chrétiens. Nous ne disons généralement pas, eh bien, ils ont un problème d'envie. On ne l'entend jamais vraiment. On entend toujours les gens dire, oh, non. Ils ont un problème de convoitise. Ils convoitent les choses des autres. En fait, la convoitise se situe plusieurs étapes plus loin, après que vous ayez déjà éprouvé de l'envie. L'envie est quelque chose qui se passe au plus profond de notre esprit. C'est le germe de ce que nous sommes. Nous commençons à nous interroger, puis l'envie peut se transformer en ressentiment, puis le ressentiment se transforme en amertume, ou bien elle peut bifurquer et se transformer en convoitise, mais le chemin commence par l'envie parce que l'envie, au fond, peut être mauvaise ou non, n'est-ce pas? Vous pensez peut-être que l'envie peut me pousser à faire plus, mais très vite, vous faites quelques pas sur cette piste et elle peut se transformer en amertume, à cause du ressentiment, ou elle se transforme en convoitise. Et nous vivons dans une société qui rend incroyablement difficile la lutte pour garder l'envie hors de nos vies parce que tout est si brillant autour de nous. Le nouveau ceci, le nouveau cela, ma nouvelle montre, mon nouveau téléphone, ce jeu, une voiture, des emplois, du prestige. La liste des choses que les autres possèdent fait qu'il est très, très facile pour nous de tomber dans ce piège si nous ne sommes pas reconnaissants. Si nous vivons dans un état d'esprit de gratitude, l'envie ne tire pas autant, mais elle tire. Pas autant, mais toujours. Il existe des données scientifiques précises sur les deux côtés de l'équation, parce qu'elles ont été étudiées. Ils ont étudié l'envie. Ils ont étudié la gratitude et ce qu'elle fait, comment elle illumine l'esprit, les zones de l'esprit. Il a été démontré que l'envie, si elle a sa place, diminue les performances cognitives, ce qui est logique car si vous commencez à envier quelque chose, vous vous concentrez dessus et cela utilise votre puissance mentale, consomme votre concentration mentale, de sorte que vos capacités cognitives commencent à se dégrader parce que je pense, oh, j'aimerais bien avoir leur voiture. C'est une si belle voiture. Ma voiture ne fonctionne pas bien et oh. Pendant ce temps, tu n'as pas réfléchi à ce qui se passait. Vous avez été renversé par le bus parce que vous ne faisiez que regarder la voiture. Il s'agirait d'un déclin des capacités cognitives lorsque le bus vous percute. Je vous l'ai dit, c'est de la science. Vous ne pouvez pas le contester. Une autre étude a montré que l'envie prolongée peut conduire des personnes qui ne donneraient pas nécessairement à la tromperie, à la paresse, à saper activement les autres, à la victimisation et même à la destruction des biens d'autrui. Lorsque vous enviez quelque chose, vous vous dites, si je ne peux pas l'avoir, ils ne peuvent pas l'avoir non plus, alors qu'ils touchent le côté de la voiture. L'envie déclenche également des comportements antisociaux, des comportements contraires à l'éthique qu'une personne n'aurait peut-être pas commis auparavant, comme la tricherie, le vol, le mensonge ou même le sabotage. Et la Bible le confirme. Passons au Proverbe 14. C'est un terme amusant, car nous ne parlons jamais vraiment de l'envie. Il s'agit toujours des symptômes intérieurs. Nous parlons d'amertume ou de convoitise, mais l'envie est tellement plus profonde et dangereuse qu'il est plus important de la traiter que les symptômes qui en découlent. Proverbe 14. Vous en êtes probablement à peu près là. Un seul verset. Proverbe 14 et verset 30. Le verset 30 dit, « Un cœur sain est la vie de la chair. Mais l'envie, la pourriture. » Ou l'hébreu ici. C'est la pourriture des os. Lorsque nous commençons à envier des choses, Dieu dit que cela pourrit vos os. Soit on croit ce que dit la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a un problème physique qui vient de l'envie, soit on ne le croit pas. Une carie des os. C'est logique si l'on considère toutes les autres déficiences qui en découlent. Passons à Job 5. Pourquoi l'envie est-elle si dangereuse? Job, chapitre 5. Lisez un seul verset. Nous commencerons au premier verset. Job chapitre 5, verset 1. Appelle maintenant, s'il y a quelqu'un qui te réponde. Vers lequel dessein te tourneras-tu? Verset 2. Car la colère tue l'insensé, et l'envie fait périr le sot. L'envie peut nous détruire, vous et moi. La colère tue l'insensé. La colère est donc mauvaise pour l'homme stupide. Elle peut les tuer. Mais l'envie tue l'idiot. C'est donc plutôt mauvais. L'envie est donc décrite dans la parole de Dieu. Nous avons vu la partie scientifique, nous regardons maintenant le côté parole de Dieu, comme quelque chose qui peut pourrir nos os et arriver au point de nous tuer. Nous pouvons certainement en dire autant sur le plan spirituel. Rappelez-vous cette lutte à la corde qui se produit, cette corde qui va et vient. Et encore une fois, nous y pensons, parce qu'il est question de colère ici. Alors regardons un autre exemple de colère dans Proverbe 27. Tournez-la. Quelle est sa gravité par rapport à d'autres termes que vous et moi utiliserons en tant que chrétiens lorsque nous parlerons de la colère comme l'un de ceux dont nous parlons souvent, ou de la colère, ou de l'emportement, des choses qui sont plus courantes dans notre langage de tous les jours? L'envie, encore une fois, n'est pas un terme très courant. Donc Proverbe 27, verset 3. Le verset 3 dit, « Une pierre est lourde et le sable est pesant, mais la colère d'un insensé est plus lourde que deux. » Donc un insensé, souvenez-vous, s'il a de la colère, elle le tuera. La colère d'un insensé peut donc l'amener au plus bas dans cette idée, il peut être noyé, tué. La colère est cruelle. Nous l'avons vu. Regardez la colère dans le monde. Regardez ce qui se passe en Israël en ce moment. La colère est scandaleuse. Mais qui peut résister à l'envie? Quoi? La colère et le courroux sont donc mauvais. Bien sûr, elles peuvent tuer l'insensé, mais qui peut tenir devant l'envie? Comme si Dieu disait, ces choses-là sont mauvaises. Mais l'envie n'est pas du tout une chose à laquelle il faut s'attaquer, parce qu'elle peut vous détruire. C'est un problème unique qui est facilement surmonté lorsque nous appliquons le contraire. C'est le côté négatif d'une pile. On pourrait dire que la gratitude est positive et l'envie négative. Elle exerce un effet de va-et-vient sur nos vies. Et nous n'y échapperons jamais. C'est pourquoi Dieu nous met tellement en garde à ce sujet. C'est une bataille constante parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose que vous voulez. Toujours. Et cela peut être minuscule. Souvenons-nous qu'il s'agit de la convoitise, un peu plus loin dans le processus. Mais cela peut être important. Il peut s'agir d'un rôle, d'un emploi, d'une place dans le corps du Christ. Il peut s'agir de tant de choses différentes venant d'en haut. Oh, ils ont un beau stylo. J'aimerais avoir un stylo comme cela. Je me demande combien cela coûterait. Des choses simples. Je n'aime pas le fait qu'ils soient là où ils sont, ni le contrôle qu'ils exercent sur moi, ni le fait qu'ils aient un travail que j'aurais dû avoir. Ni le fait que j'aurais dû obtenir cette promotion. Tout commence par l'envie. Revenons au Nouveau Testament. Jacques, chapitre 3. Elle peut détruire les os, se décomposer, nous tuer. L'envie est pire que la colère et le courroux. Dieu qualifie la colère d'outrageuse. Jacques, chapitre 3 et verset 14. 3, 14. Le verset 14 dit, « Mais si vous avez de l'envie amère, c'est un niveau supérieur, et des querelles dans vos cœurs, ne vous glorifiez pas. S'il y a des querelles et de l'envie amère, alors vous pouvez dire, l'envie, dans vos cœurs ne vous glorifiez pas, et ne mentez pas contre la vérité. Parce que l'envie, rappelez-vous que la science a dit qu'elle pousserait les gens à faire des choses qu'ils ne feraient pas, y compris à tricher et à mentir. Verset 15. Cette sagesse ne descend pas d'en haut, mais elle est terrestre, sensuelle et diabolique. Car là où il y a de l'envie et des querelles, mais dans notre cas là où il y a de l'envie, il y a de la confusion, ce n'est pas une bonne chose, mais cela continue dans toute œuvre mauvaise. Vous avez une œuvre mauvaise, vous pouvez le dire à l'envers, quelle que soit cette œuvre mauvaise, ce que quelqu'un fait, le meurtre, le mensonge, la tricherie, toutes les choses qui sont considérées comme mauvaises dans la parole de Dieu. Et vous savez ce que Dieu vient de dire ici? Il a dit que la racine de ces choses, c'est l'envie. C'est la cause première de toutes les mauvaises actions. Combien la gratitude est importante pour la combattre? À quel point l'envie est-elle dangereuse si nous ne menons pas nos vies et ne marchons pas dans nos vies avec une attitude de gratitude? C'est pourquoi nous n'y pensons pas souvent. Nous pensons aux symptômes de l'envie comme ceci. Si c'est la racine de toute œuvre mauvaise, on ne pense pas à l'envie quand quelqu'un parle de meurtre. Non, ce n'est pas ce qui vient à l'esprit quand on assassine quelqu'un. Ou si quelqu'un est glouton, pécheur, est-ce qu'on pense à l'envie? Ou s'il y a la convoitise, vous pensez probablement à la convoitise. Ou si quelqu'un fume. Dieu dit que l'envie est la racine de toutes ces mauvaises œuvres, de toutes ces œuvres. Je pose donc à nouveau la question, quel est le danger de l'envie et quelle est l'importance de la gratitude? Passons à Galates 5. Nous avons parcouru quelques livres. Nous sommes encore en train de construire ceci, les dangers de l'envie. Nous revenons en quelque sorte et sautons à nouveau dans la gratitude alors que nous remplissons le reste du message. Galates, chapitre 5 et verset 26, juste un verset ici. Le verset 26 dit, « Ne soyons pas désireux d'une vaine gloire. Vouloir être au sommet. Une gloire qui n'est que vanité, en nous provoquant les uns les autres. Parce que c'est ce qui se passe. » En nous enviant les uns les autres. Ce verset est presque écrit dans le mauvais sens, car il dit, ne recherchez pas une vaine gloire, en vous provoquant les uns les autres, en vous portant envie les uns aux autres. Ce n'est pas ainsi que les choses se passent, n'est-ce pas? La vaine gloire arrive à la fin. Vous commencez par vous envier les uns les autres. Rappelez-vous, c'est la racine de tous les maux, de toutes les mauvaises actions. S'envier les uns les autres. Ensuite, ce qui se passe probablement, c'est que vous commencez à miner quelqu'un. Vous le provoquez, vous causez des problèmes parce que vous voulez être là. Vous voulez la gloire, et cela finit par agrafer une vaine gloire, mais cela a commencé par de l'envie. C'est toujours le cas. Tite 3, Tite chapitre 3. Je pourrais vous demander de lever la main, mais j'imagine que vous étiez comme moi lorsque j'ai commencé à étudier ce sujet, parce que j'ai commencé ce message par un sermon sur la gratitude. Pour moi, c'est l'une des choses les plus fondamentales, que j'ai toujours trouvées très importante en tant qu'être humain. Il faut être reconnaissant de ce qu'on nous donne, et on m'a inculqué dès l'enfance, je crois, à la fois verbalement et physiquement, que je devais être reconnaissant de tout ce qui m'arrivait. Tite 3 et le verset 3, car nous aussi, nous avons parfois été stupides. Nous pouvons tous dire cela. Nous avons été désobéissants, nous avons été trompés et nous avons servi diverses convoitises et plaisirs, vivant dans la malice et l'envie, haïssant et détestant les uns les autres. Car tel est le résultat. Nous en étions tous là et nous le sommes encore. Dans de nombreux domaines du christianisme, nous pourrions dire, vous savez, Je ne mange plus de sandwich au jambon. Je ne suis pas tenté par les sandwich au jambon. Je ne vais pas sortir et acheter ce jambon deux fois cuit, à l'aspect bizarre, qu'ils vendent toujours à cette époque de l'année. Et il n'y a aucune partie de moi qui se dit, oh, je vais m'effondrer et acheter un jambon. Comme si tu étais assis dans l'épicerie ou que tu te disais, oh, le bacon de dinde est bon, mais cette fois-ci, prenons juste le truc au porc. Nous ne le faisons pas. Nous laissons ce péché physique, derrière nous et nous nous attaquons au péché spirituel. Et généralement, avec le temps, nous constatons qu'à part les rares, la croix de Dieu ou la chose qui est vraiment au plus profond de nous et qui est difficile à surmonter, la plupart de ces aspects du péché, nous arrivons assez bien à les mettre derrière nous. C'est le problème de l'envie. Nous ne pouvons pas, parce que c'est l'autre face de la gratitude, nous devrons toujours la combattre. C'est le problème de l'envie parce que cette société est construite pour que nous gardions le terme utilisé, il y a des années, et si vous êtes jeune, vous n'en avez probablement pas entendu parler, mais peut-être que vous l'avez entendu, le terme « garder le contact avec les Jones ». Je ne sais pas qui sont les Jones et pourquoi nous les suivons. J'en connais quelques-uns, mais pas tant que cela. Je connais quelqu'un qui était un Jones, mais c'est un terme populaire qui signifie que vous devez suivre vos voisins avec toutes les choses qu'ils ont, ce qu'ils font. Et c'était un terme avant que les médias sociaux ne diffusent partout ce que les autres ont. Tout ce qu'ils ont, le style de vie dont ils jouissent, les choses incroyables que vous pouvez mettre sur votre compte de médias sociaux et qui vous font ressembler à une superstar. Pouvoir créer des images irréalistes de ce à quoi la vie devrait ressembler et pouvoir les présenter à tout le monde. Et, oh, il y a une partie de moi qui meurt à chaque fois. Chaque fois que vous voyez l'hashtag béni, vous vous dites vous savez quoi, j'appelle cela de la gratitude performative parce que c'est comme les autocollants de pare-choc ou n'importe quoi d'autre, oui, cela me tue. Dans ce cas, l'utilisation d'un mot dièse est inappropriée, mais ce n'est pas de la gratitude. C'est de la gratitude performative. Et c'est ce que sont les médias sociaux. C'est tout ce qu'il y a de performatif. C'est très utile pour beaucoup de choses. On peut rester en contact avec les gens. Le travail sur Facebook est pratique pour cela. Tous les autres médias sociaux permettent de discuter avec des amis et de parcourir le monde. Des choses merveilleuses. La technologie, c'est la technologie. Je suis assez neutre en ce qui concerne le bien ou le mal de la technologie, mais la façon dont les gens l'utilisent peut être terrible. Et c'est l'un des cas où elle peut rendre plus difficile la lutte pour rester reconnaissant et non envieux. Allez à Ecclésiaste 4, quelques versets et je vais l'examiner d'une manière légèrement différente. Ecclésiaste, chapitre 4. Oui, c'est le fait de professer le christianisme sur les médias sociaux. Oh, même lorsque vous effectuez des recherches sur des sujets et autres et qu'il y a des sites web, et que vous pouvez obtenir. Si vous pouvez acheter des t-shirts qui contiennent des concepts bibliques et que vous vous promenez avec. Non, je ne vais pas dire ce que je pense. Ecclésiaste, chapitre 4, ils sont bénis. Et au verset 4, Ecclésiaste 4, 4. Encore une fois, j'estime qu'un homme s'est donné du mal dans tout travail et dans toute œuvre juste, et que c'est pour cela qu'il... Tout le bon travail, un homme est envié par son voisin. C'est pourquoi je considère tout travail et toute œuvre juste, même si c'est pour cela qu'un homme est envié par son prochain, mais que dit Dieu? Il s'agit là aussi d'une vanité et d'une contrariété d'esprit. Ainsi, lorsque vous faites défiler ou traquer le profil de quelqu'un sur les médias sociaux et que vous regardez ce qu'il fait, Il l'a construit pour que vous l'enviez parce que cela lui permet de se sentir bien. Parce que vous savez ce que c'est? C'est de la vanité parce qu'ils se sentent bien parce que j'ai 1 million de followers. À quel point suis-je important? Et si vous suivez quelqu'un à cause des médias sociaux, à cause de son style de vie, vous êtes par nature, et moi aussi, exactement dans le même état d'esprit. Si vous n'utilisez pas les médias sociaux pour éduquer et vous rapprocher des gens que vous connaissez, et que vous le faites simplement pour admirer et idolâtrer quelqu'un, vous et moi sommes envieux de cette personne. Nous laissons l'envie s'installer. Vous dites, non, 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 non. Je pense qu'ils sont cool. Pourquoi? Parce qu'ils s'habillent d'une certaine façon. Parce que vous aimeriez avoir leurs vêtements, n'est-ce pas? Ou tel aspect. Non, non. C'est l'envie qui s'installe. Cela signifie qu'il n'est pas mauvais de suivre les gens. Je suis Bill Gates sur LinkedIn parce qu'il publie des articles intéressants et que j'apprends des choses. Je ne veux pas être Bill Gates. Vous auriez beaucoup d'argent sur votre compte en banque et votre vie serait un vrai gâchis parce que c'est la vie de tous ceux qui ont beaucoup d'argent sur leur compte en banque, mais vous apprenez des choses. Les médias sociaux sont donc parfaits pour apprendre des choses, mais si nous mettons les gens sur des piédestaux, nous les adorons, alors que nous devrions adorer Dieu. Deuxièmement, nous laissons les graines de l'envie s'installer en nous plus rapidement. Parce qu'une fois qu'une caractéristique positive ou négative, la gratitude ou l'envie, est prise, utilisée et cultivée, il devient plus facile pour nous de rediriger cette envie vers d'autres choses. Parce que l'envie devient naturelle. De plus, cela ne semble pas si grave parce que j'aime simplement ce qu'ils ont. Mais ce sont les médias sociaux. Ils y passent beaucoup de temps et si nous utilisons les médias sociaux de cette manière pour mettre des photos et montrer notre style de vie, le petit déjeuner que nous avons pris, les nouvelles chaussures que nous avons et, ou toute autre absurdité, nous nous efforçons de rendre les gens envieux de nous. Et Dieu dit que c'est de la vanité. Vous êtes simplement vaniteux. Passons à la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10. Deuxième Corinthiens, chapitre 10. Il y a de quoi envier un sujet auquel je n'ai jamais vraiment réfléchi, mais la Bible en dit long à ce sujet. Deuxième Corinthiens, chapitre 10, et verset 12, qui est un seul verset ici. Le verset 12 se lit comme suit. Deuxième Corinthiens, chapitre 10, car nous n'osons pas nous mettre dans le nombre, ni nous comparer à ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais ceux qui font cela, se mesurent eux-mêmes, utilisant donc ces autres personnes pour déterminer qui nous sommes, combien nous sommes bons ou combien nous sommes petits, et se comparant entre eux, ne sont pas sages. Donc, si nous utilisons les médias sociaux dans ce cas, si nous utilisons les pop stars, les athlètes, les musiciens ou qui que ce soit d'autre pour nous mesurer, Dieu nous dit que nous ne sommes pas sages. Vous n'êtes pas sages parce que je sais, en tant que Dieu, que vous allez être envieux, ce qui vous empêchera d'être reconnaissant pour ce que vous avez. Nous ne pouvons pas nous comparer à ceux qui créent des images bidons, parce que c'est ce qu'ils sont. Plus on étudie le cinéma et plus on comprend Hollywood et ses différents aspects, sans parler de l'époque moderne où l'on peut falsifier à peu près n'importe quoi. Je pourrais avoir des photos de vacances de n'importe quel endroit du monde en une quinzaine de minutes parce que je peux générer des arrière-plans et Photoshop, et je pourrais être sur la Côte d'Azur et dire « Regardez-moi ici », puis passer à cela. Vous pourriez tout simplement faire semblant. Ce n'est pas réel. L'utilisation numéro 1, c'est un peu faux, non? L'utilisation la plus rentable des gens qui ont des jets privés est de les louer alors aux gens des médias sociaux pour qu'ils puissent prendre des photos dans l'avion sur la piste d'atterrissage. C'est une activité très rentable, qui rapporte beaucoup d'argent. Parce que votre avion n'a pas besoin de prendre l'air. Vous ne payez pas de frais de carburant, mais un crétin peut monter dans l'avion et s'asseoir avec son costume et sa bouteille de champagne vide, parce qu'elle est vide. Ils ne peuvent pas se le permettre parce qu'ils ont juste payé pour l'avion dans lequel ils sont assis. Ils sont donc assis dans l'avion avec leur bouteille de champagne vide, et ils prennent des photos. Ils s'affichent sur les réseaux sociaux et tout le monde se dit, oh là là, ils volent dans de beaux jets. Non. Ils taxent avec. Et les gens qui ont les jets sont comme, si vous allez être stupide, je vais vous le louer. Beaucoup d'argent. C'est faux, c'est de la vanité. Quand nous regardons vers le haut, nous sommes aspirés. Et le diable fait ce qu'il veut pour faire germer en nous ses graines d'envie. Allez au psaume 37. Il s'agit toujours de parler des médias sociaux, une petite parenthèse ici. Psaume 37. Psaume avec David ici, commençant le verset 1 du psaume 37. On peut y lire, ne t'inquiète pas à cause des méchants, et ne porte pas envie aux ouvriers de l'iniquité, qui mènent des vies terribles, car ils seront bientôt fauchés comme l'herbe. Toute cette imposture va disparaître. C'est ce qu'ils font actuellement. Ils peuvent avoir l'air bien, n'est-ce pas? Mais ne les enviez pas. Mettez votre confiance dans le Seigneur et faites le bien, verset 3, ainsi vous habiterez dans le pays et vous serez nourris. C'est le verset qui dit d'arrêter de faire, de poser le téléphone. Ne soyez pas envieux de ce qu'ils peuvent faire. Il y a un vieux grec, Épicure, un très vieux grec, un philosophe. Il avait une phrase géniale. Il y a beaucoup de bons grecs qui disent des choses parce que c'est de là que viennent tous les philosophes, mais son commentaire était, ne gâchez pas ce que vous avez en désirant ce que vous n'avez pas. Souvenez-vous que ce que vous avez maintenant faisait autrefois partie des choses que vous espériez. Je vais donc l'adapter à l'ère moderne. Cessez de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas et rappelez-vous que ce que vous avez était autrefois des choses que vous n'aviez pas. Appréciez donc ce que vous avez maintenant, car vous pouvez le gâcher. Si nous sommes toujours à la recherche de la prochaine chose, nous n'apprécions pas, nous ne sommes pas capables de montrer de la gratitude pour ce que nous avons et c'est là que tout s'écroule parce que si nous aimons ce que nous avons devant nous, ce qui nous est donné, cette église, la vérité, le mode de vie de Dieu, la famille, les amis, et que nous nous concentrons sur cela, c'est facile d'être reconnaissant. Mais si nous sommes toujours à la recherche de la prochaine chose, nous montrons toujours de l'envie, et cela rend presque impossible d'être reconnaissant. Cette lutte acharnée nous entraîne de plus en plus dans la direction voulue par Satan, c'est-à-dire vers l'envie et loin de Dieu et de la gratitude. D'accord. C'est cela l'envie. C'est une chose assez désagréable. Revenons à la gratitude. Encore une fois, la science, car tout comme pour l'envie, des études ont été menées sur les personnes reconnaissantes. Quels sont les effets sur le cerveau? Comment cela change-t-il votre façon de penser? La gratitude, à maintes reprises dans les études, montre que les personnes reconnaissantes sont plus heureuses. La raison pour laquelle ils sont reconnaissants n'a même pas d'importance. Ces études ont été menées dans tous les sens, à gauche et à droite. C'est l'étude la plus concluante, mais les personnes qui sont reconnaissantes dans leur mode de vie, dans leurs habitudes, pour ainsi dire, sont plus heureuses. C'est logique, car vous ne voulez pas les choses que vous ne pouvez pas avoir parce que vous êtes reconnaissant pour les choses que vous avez, ce qui signifie que vous appréciez les choses que vous avez, et donc que vous serez plus reconnaissant pour elles et plus heureux. Il a également été démontré que cela augmentait le bonheur à long terme et le fait d'être positif, optimiste. Les personnes reconnaissantes ont tendance à être plus optimistes. Une étude a montré que le fait de tenir un journal pendant 5 minutes par jour sur ce dont nous sommes reconnaissants entraîne une augmentation de plus de 10% par rapport aux mêmes personnes. Je ne sais pas comment ils ont obtenu ces 10%, mais il s'agit d'une augmentation de 10% par rapport à ceux qui ne l'ont pas fait, donc une différence marquée par rapport à quelqu'un qui tient un journal de pensée positive et reconnaissante. Appliquez cela en tant que chrétien. Pensez à la prière. Écrivons-nous les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Notons-nous les bénédictions, les choses que nous recevons pour pouvoir nous présenter devant Dieu plus de 5 minutes par jour, et quels en sont les résultats, et le remercier pour ce dont nous sommes reconnaissants. La gratitude augmente notre bien-être physiologique, améliore l'estime de soi et réduit la dépression. On pourrait penser que le pourquoi de tout cela est assez facile à comprendre. Parce que si vous n'êtes pas quelqu'un, si j'avais ce qu'il ferait ou aurait ou pourrait expérimenter, vous savez quoi? Je serais heureux. Cela signifie que vous n'êtes pas heureux parce que vous n'êtes pas heureux avec ce que vous avez. Voici un exemple intéressant. La gratitude améliore le sommeil, l'humeur et le système immunitaire. Les personnes reconnaissantes ont tendance à avoir une meilleure réponse immunitaire, à mieux dormir et à avoir une humeur plus positive. La gratitude améliore les relations. Si vous êtes reconnaissante envers les personnes qui vous entourent, c'est facile à dire. Et il a été démontré que la gratitude réduit l'anxiété, le chagrin, et ceci est fascinant. C'est la science qui frappe la Bible. Il a été démontré que la gratitude réduit l'anxiété, le chagrin et l'envie parce qu'elle en est le contraire. Lorsque nous sommes reconnaissants pour certaines choses, nous n'avons pas d'envie parce que cela la réduit, parce que nous sommes attirés vers ce que Dieu veut que nous devenions, des êtres humains reconnaissants qui mettent en avant ce qu'il est, son caractère, son amour. Allez à Colossiens 2. Colossiens, chapitre 2. Je suis toujours étonné de voir des études scientifiques, alors que la Bible l'a écrit dans ses pages pendant des milliers d'années, se dire, eh bien, c'est bien fait. Colossiens, chapitre 2 et verset 6. Le verset 6 dit, comme vous avez reçu Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui, soyez comme lui, enracinés et édifiés en lui, affermis dans la foi, comme on vous l'a enseigné, abondant en actions de grâce. Parce que nous devenons plus forts. Nous devenons plus semblables à Christ, et nous marchons dans l'action de grâce, en abondant dans l'action de grâce. Bien sûr, c'est le cas, car il a dit que nous devrions être reconnaissants pour tout. En toute chose, nous rendons grâce. Pour ressembler à Dieu, nous devons donc ressembler au Christ. Et pour ressembler au Christ, il est dit que nous devons abonder en actions de grâce. Cela lie également l'action de grâce à la croissance. Alors, pourquoi la gratitude est-elle importante? Si nous voulons grandir, nous devons être reconnaissants, parce qu'il est dit, édifiés en lui, affermis dans la foi, comme on vous l'a enseigné, abondant en actions de grâce. Donc, si nous voulons grandir en tant que chrétiens, nous devons être reconnaissants, en abondant dans ce sens. Nous avons tant de choses pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants. C'est pourquoi les miracles, les bénédictions, ou lorsque Dieu vous aide à surmonter une épreuve, sont autant de choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Mais ce sont des choses en soi, comme quelqu'un, les gens, en tant qu'êtres humains, en tant que chrétiens qui prient, trouvent un moyen de saisir les choses. C'est une chose d'avoir des idées et de les écrire sur le papier. C'est une autre chose que d'être capable de prendre ces idées et de les organiser de manière qu'elles vous soient utiles. Mais si vous prenez vos bénédictions, si vous prenez les choses que vous recevez, pas seulement de Dieu, de n'importe quoi parce qu'en fin de compte, tout vient de Dieu, alors si nous nous mettons à genoux et que nous le remercions pour des choses qui ne semblent même pas liées. J'en profite maintenant au niveau le plus drôle et le plus doux parce que chaque soir, mon fils prie et nous le faisons, sinon si vous avez eu des enfants, vous savez qu'ils tombent dans le par cœur. Ils peuvent avoir une prière qui dure 3 minutes et qu'ils apprennent par cœur. D'accord. C'est à peu près la prière catholique la plus apprise que j'ai jamais entendue. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous les mélangeons. Nous lui disons qu'il doit avoir 2 choses pour lesquelles il est reconnaissant, différentes de sa liste habituelle, et une chose sur laquelle il travaille. Il les ajoute alors à sa liste. Alors, parfois, ce sont les choses les plus gentilles qu'en tant qu'adulte, on se dit, eh bien, je n'ai jamais pensé à être reconnaissant pour cela. Mais en tant qu'adulte, nous devrions être capables de cataloguer des idées et de les noter, et de disposer d'un livre de prière ou d'un carnet de prière, d'un OneNote ou d'un courriel, quelle que soit la manière dont vous saisissez les idées, pour pouvoir vous y référer et vous dire, vous savez quoi? J'ai beaucoup de raisons d'être reconnaissant. Et encore une fois, il ne s'agit pas seulement de ce que Dieu nous donne, de ce que nous recevons de nos parents, de ce que nous recevons de nos amis, de ce que nous rencontrons par hasard et pour lequel nous sommes reconnaissants. Car plus nous y pensons, plus nous nous y attardons, plus cela devient une seconde nature de répondre par la gratitude. Cela devient normal pour nous. Et puis, cette corde qui nous tire vers l'envie perd de sa force car, comme le montre la science, lorsque nous sommes reconnaissants, l'envie diminue. Revenons au psaume No 3. Psaume. Le 103e psaume. Oh là là. Parfois, j'enlève mes lunettes et je me rends compte que je ne vois plus rien. Il fut un temps où je n'en avais pas besoin, et je ne vous dirai pas où se trouve le livre des psaumes, je les ai enlevés maintenant. No 3. Psaume. Un autre asa n'a rien à voir avec quoi que ce soit, sauf avec l'humanité, sauf avec le fait que je suis reconnaissant pour mes lunettes. Vous voyez, c'est quand tu veux. Psaume 3, verset 2. Le deuxième verset dit, « Bénis le Seigneur, mon âme, et n'oublie pas tous ses bienfaits. Il pardonne toutes tes iniquités, nous tous. Il guérit de toutes nos maladies, il rachète ta vie de la destruction, il te couronne de bonté et de miséricorde. Nous ne pouvons pas les oublier. Qui rassasit ta bouche de bonnes choses, pour que la jeunesse se renouvelle comme les aigles. Nous ne pouvons pas oublier les choses qui nous sont données. Il pardonne nos iniquités, nous guérit, nous donne des bénédictions. Nous devons trouver un moyen de les saisir pour pouvoir profiter des avantages de la gratitude. C'est étonnant, il y a tant de choses dans le plan de Dieu et comment il agit, surtout en tant que chrétien, nous faisons certaines choses qui nous donnent quelque chose en retour, et ce quelque chose en retour nous donne quelque chose. Et ce retour nous donne quelque chose, dans ce cas, pour être reconnaissant, qui montre de la gratitude envers Dieu, ce que vous et moi ferions en tant qu'êtres humains, lorsque vous marchez derrière quelqu'un, qu'il vous tient la porte et que vous lui dites « merci ». Ils se sentent bien. Vous savez ce qui les rend reconnaissants? Qu'il vous ait tenu la porte. Dieu est pareil. Il nous a construits pour que nous soyons des êtres reconnaissants. Il nous bénit donc lorsque nous sommes reconnaissants car, souvenez-vous, vous allez à lui dans la prière et la supplication avec reconnaissance, et il répond à votre prière. Vous pouvez lui parler à d'autres moments, mais cette grande prière que vous faites le matin ou le soir, quel que soit votre emploi du temps, vous met à genoux pour le remercier de la chose qu'il vous a donnée et que vous avez demandée, Ce qui vous pousse à prier à nouveau et à être reconnaissant de pouvoir vous mettre à genoux et venir à Dieu pour lui demander des choses. C'est un cycle qui se répète encore et encore. L'habitude de la gratitude devient alors exactement cette habitude. Psaume 16, verset 12. Psaume 16, verset 12. Le verset 12 dit: Que rendrai-je à l'Éternel pour tous les bienfaits qu'il m'a accordés? Je prendrai une coupe de salut et j'invoquerai le nom du Seigneur. J'acquitterai mes vœux à l'Éternel, maintenant, en présence de son peuple. Que rendrai-je, verset 12, au Seigneur pour tous les bienfaits qu'il m'a accordés? Vous savez ce que Dieu veut que nous fassions? Il veut que nous le remercions. C'est ce qu'il veut. Continuons cette boucle. Bon, passons au Nouveau Testament. 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4. Nous commencerons au verset 15. Le verset 15 se lit comme suit, dans le chapitre 4 de la deuxième partie des Corinthiens, car tout est pour vous, afin que l'abondance de la grâce, par l'action de grâce d'un grand nombre, oh, c'est fascinant, rebondisse à la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne nous fatiguons pas, nous ne périssons pas par l'extérieur, mais l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre légère affliction, qui n'est qu'un moment, produit pour nous un poids de gloire bien plus grand et bien plus éternel, c'est-à-dire le salut. Nous ne regardons pas aux choses que l'on voit, mais à celles que l'on ne voit pas. Car les choses que l'on voit sont passagères, mais celles que l'on ne voit pas sont éternelles. Toute cette histoire de salut a commencé par « Car tout est à cause de vous », au verset 15, afin que l'abondance de la grâce, par l'action de grâce d'un grand nombre de personnes, se répande à la gloire de Dieu. Frères et sœurs, nous ne sommes pas isolés. Nous travaillons à notre propre salut avec crainte et tremblement, oui. Nous sommes tous des cuves qui reposent sur nos propres fonds. Nous devons tous décider individuellement d'obéir à Dieu. Dans cette optique, le christianisme est solo. Mais c'est à peu près la seule façon de faire, car l'action de grâce de beaucoup glorifie Dieu. Lorsque nous allons à la fête, nous devrions, à titre d'exemple, être ces personnes dont tout le monde dit « Oh là là, ils sont si reconnaissants. Ils disent merci. Ils sont polis, s'il vous plaît. Ils sont tellement reconnaissants pour ce que nous leur donnons. Parce que cela reflète la gloire de Dieu pour les gens autour de nous, l'action de grâce d'un grand nombre. C'est pourquoi nous avons tous un rôle individuel à jouer, mais en fin de compte, c'est la somme des parties qui montre que ces personnes sont différentes. Ils ne sont peut-être pas connectés, mais ce sont les vrais chrétiens. Nous sommes manifestement faux parce qu'ils sont si géniaux. Ils ne vont pas relier ces points, mais ils relient le fait que nous sommes différents. Il y a quelque chose de différent. Pourquoi sont-ils si heureux? Au fil des ans, j'ai souvent entendu des histoires ou participé à des conversations où les gens disaient « Pourquoi êtes-vous si heureux ?» ou « Pourquoi votre peuple est-il si heureux ?» On a envie de répondre « Eh bien, parce qu'ils obéissent à Dieu. » Vous seriez plus heureux si vous le faisiez aussi, mais cela n'est pas bien reçu. Mais notre gratitude pour ce que nous faisons, lorsque nous montrons l'exemple, devrait être évidente. Les gens se disent, ils sont différents, ils sont reconnaissants. Pour la fête ou dans ces circonstances, c'est facile, n'est-ce pas? Quand tout va bien, quand on est petit, on reçoit un vélo tout neuf que ses parents viennent de lui offrir. Oh, merci, 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 merci. C'est facile. Là où la gratitude devient plus difficile, c'est lorsque nous devons être reconnaissants dans l'adversité. La marche chrétienne n'est pas facile. Nous sommes différents. Cela comporte des avantages et des inconvénients. Vous et moi sommes différents. Cela fait de nous ceux qui, d'accord, sont, il y a quelque chose de différent, ce qui peut entraîner des persécutions, des taquineries, des moqueries à l'école ou au travail, ou quoi que ce soit d'autre. C'est pour cela que nous passons du christianisme noano-christianisme de Zo 2. Revenons à Job, chapitre 1, car lorsque les choses vont mal, il est facile d'être envieux, car vous savez quoi? Les gens dans le monde n'ont pas la vie aussi dure que nous. Ils peuvent faire des choses que nous ne pouvons pas faire. Leur vie semble bien plus facile que la nôtre. En fait, je viens de vous donner trois exemples d'envie à l'égard de personnes dans le monde, car c'est de l'envie, mais ces sentiments s'insinuent davantage lorsque vous êtes confronté à l'adversité. Quand on vous taquine parce que vous respectez le sabbat ou les jours saints, c'est quand l'adversité arrive qu'elle met à l'épreuve notre caractère pour maintenir ce que Dieu dit que nous devons être, notre essence et la gratitude. Job, chapitre 1 et verset 20. Nous allons commencer, vous allez, c'est toute la mise en place ici. Vous pouvez penser à l'histoire de Job. Satan est descendu, il allait faire des choses, mais il n'a pas pu tuer Job, et il y a eu des allers-retours, des furoncles et ceci, et comme le chapitre continue, mais voici Job et le verset 20. L'histoire démarre vraiment ici. Job écrivit, se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, tomba par terre, se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du ventre de ma mère. » Après avoir perdu tant de choses en si peu de temps, voici la réponse de Job dans l'adversité extrême, « Je suis sorti nu du ventre de ma mère et j'y retournerai nu. » Bien que nous ne retournions pas dans le ventre de notre mère, l'idée reste la même. C'est une formulation amusante. L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris. Ainsi, non seulement Job a reconnu qu'il souffrait et a essayé d'être reconnaissant sur le moment, mais il a aussi reconnu que Dieu l'avait privé de sa souffrance par l'intermédiaire de Satan. Satan l'a fait, mais Dieu l'a permis. Il a dit, « Non, Dieu m'a donné mes bénédictions. C'est son droit de me retirer mes bénédictions. Que le nom du Seigneur soit béni. » Il a continué à honorer Dieu, à montrer la bonne attitude, même s'il venait d'être frappé par un camion Mack dans sa vie. Frères et sœurs, aucun d'entre nous n'a vécu ce que Job a vécu. Cela semble être une histoire dans l'Ancien Testament, mais rendez-la réelle. Mettez-vous à la place de cet homme et pensez à toutes les choses qu'il a perdues en peu de temps, et comme il aurait été facile de regarder son voisin qui n'obéissait pas à Dieu, ou cet ami qui ne croyait pas en ce qu'il croyait. Et Job aurait pu dire, « Si je n'avais pas obéi à Dieu, je n'aurais pas à faire face à cela. Je n'aurais pas à vivre cela. Si je pouvais ressembler davantage à mon voisin ou à mon ami, ou à la personne au travail, à l'école, eh bien, ce ne serait pas si difficile si je pouvais leur ressembler. » C'est alors que Dieu nous met à l'épreuve et nous dit, « Tu dois faire preuve de gratitude même quand les choses vont mal, parce qu'il est en train de forger notre caractère. » Lorsque de mauvaises choses arrivent, vous et moi sommes mis à l'épreuve. Rien ne peut arriver dans notre vie sans que Dieu s'en aperçoive. Il peut laisser le temps et le hasard agir, mais il s'agit d'un être qui est en dehors de l'espace et du temps. Il s'agit donc d'un être qui, si je tiens ceci, est l'espace et le temps. Vous et moi sommes profondément mêlés quelque part dans les 6000 ans d'existence de l'homme. Dieu est ce que je fais en ce moment, il tient l'espace et le temps et les regarde. Il n'y a rien qui arrive dans nos vies qu'il ne puisse arrêter, qu'il ne permette. Il laisse les choses se produire pour une raison. Parce qu'il essaie de faire de vous et moi des dieux, et il sait que pour faire des êtres des dieux, ils doivent, quoi qu'il arrive, être reconnaissants de ce qu'ils ont. Quoi qu'il arrive, Ils ne doivent pas regarder les autres ou d'autres choses ou personnes et être envieux de ce qu'ils ont. Il sait que cela vient du diable. Alors pour nous construire comme lui, pour nous éloigner du caractère de Satan, de la nature humaine, il doit construire en nous sa nature, ce désir fondamental d'être reconnaissant. Et Job l'a fait très clairement ici. Examinons un autre récit. Revenons au Nouveau Testament. 2 Corinthiens, chapitre 12, et commençons au verset 7. Verset 7, un autre exemple de gratitude dans l'adversité ou l'épreuve. Verset 7, si je ne m'élevais pas au-dessus de toute mesure, Paul se voyait lui-même et se glorifiait, et au point où, plus tôt dans le chapitre, il ne voulait même pas se nommer, si je ne m'élevais pas au-dessus de toute mesure par l'abondance des révélations, il m'a été donné une écharde dans la chair. Alors il a eu cette écharde dans la chair. Il semble que ce soit un problème oculaire. Le messager de Satan pour me faire souffrir, afin que je ne m'élève pas démesurément. J'ai demandé 3 fois au Seigneur, 3 fois, que cela s'éloigne de moi. Et lui, Dieu, m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. » C'est donc très volontiers. Vous pouvez presque imaginer que je dis très volontiers parce que j'aimerais vraiment que cela sorte de moi, mais il a dit, « C'est donc très volontiers que je me glorifierai de mes infirmités, de ce que je souffre. » Je préfère me montrer reconnaissant d'avoir des problèmes. Paul dit donc, « Je suis reconnaissante à Dieu de garder en moi cette épine dans la chair, afin que la puissance du Christ repose sur moi. » Il a montré de la gratitude pour une chose qu'il a supplié Dieu d'enlever, mais quand Dieu a dit non, il a dit, « Non, Dieu le fait dans un but précis. » Frères et sœurs, lorsque des choses nous arrivent, à vous et à moi, Dieu les fait dans un but précis. Parfois, c'est terrible, parfois l'épreuve est intense, mais Dieu dit, voyez ma volonté en cela. Rappelez-vous, sa volonté est que nous soyons reconnaissants en toutes choses, même dans les épreuves, sachant qu'en fin de compte, Dieu construit notre caractère, Dieu nous construit comme lui dans le but ultime de faire de nous Dieu. Verset 10. C'est pourquoi je prends plaisir à mes infirmités, à mes outrages, à mes nécessités, à mes persécutions et à mes détresses, toutes les choses qu'il a traversées, à cause de Christ, car lorsque je suis faible, je deviens fort. Ainsi, dans sa faiblesse, il devient fort parce qu'il a trouvé la gratitude. Vous pouvez prendre du plaisir. Vous pouvez dire la même chose. Je suis reconnaissant dans les infirmités, les reproches, les nécessités et les persécutions. C'est là que c'est difficile. Lorsque nous obtenons un nouveau vélo ou un emploi, qu'une porte s'ouvre ou qu'il y a un miracle, nous devons saisir et remercier Dieu pour ces choses. Mais lorsque cela devient plus difficile en tant que chrétien, lorsque le caoutchouc rencontre la route, c'est lorsque nous trouvons le moyen, la venue, l'aspect de ce que nous traversons pour en extraire la pépite et en être reconnaissant. C'est la partie la plus difficile. Passons à Philippiens 4. Nous commençons à conclure ici. Nous parlerons de quelques moyens de développer la gratitude pendant le temps qu'il nous reste. Premièrement, Philippiens 4, verset 10. 4. 10 de Philippiens. Mais je me réjouis beaucoup dans le Seigneur de ce que maintenant, à ta dernière heure, le soin que tu as pris de moi a encore prospéré, alors que toi aussi tu étais attentif, mais que l'occasion te manquait. Vous vouliez aider, mais il n'y avait pas d'occasion. Ce n'est pas que je parle de manque, car j'ai appris, dans l'état où je suis, de quoi je dois me contenter. Le contentement est un symptôme de la gratitude. Tout comme la convoitise ou l'amertume est un symptôme de l'envie, Le contentement est un symptôme de la gratitude. Le contentement, si nous sommes reconnaissants pour tout ce que nous avons, nous sommes heureux avec ce que nous avons. Nous n'avons pas besoin de plus. Mais quel que soit l'état dans lequel je me trouve, en continuant ici, à manquer d'opportunités. Quel que soit l'état dans lequel je me trouve, sois satisfait. Verset 12. Je sais à la fois être abaissé, l'adversité, je sais abonder. Et partout où, en toute chose, je suis instruite à la fois à être rassasié et à avoir faim, à abonder et à être dans le besoin, je sais que je peux tout par Christ qui me fortifie. Parce que c'est Dieu qui, en fin de compte, nous donne, à vous et à moi, le pouvoir de trouver la gratitude, d'être satisfait, de ne pas être envahi par l'envie, la convoitise et l'amertume. C'est là que tout cela va dans nos vies. Alors, avec les 5, 7 ou 8 minutes qu'il nous reste, regardons quelques versets qui montrent comment nous pouvons être reconnaissants. Allons au psaume 100, passons-les en revue, et ensuite quelques autres choses que nous pouvons faire avec le temps qu'il nous reste. Psaume 100 et verset 4. Psaume 100, verset 4. Le verset 4 dit, « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce et dans ses parvis avec des louanges. Soyez-lui reconnaissant et bénissez son nom. » Verset 5. « Car l'Éternel est bon, sa miséricorde est éternelle, et sa vérité subsiste de génération en génération. » Nous ne pouvons donc pas aller devant Dieu, dans ses portes, ses cours, pour être reconnaissant et bénir physiquement son nom. Mais nous allons devant le siège de Dieu, devant son trône, chaque fois que nous prions. Ainsi, lorsque nous prions et montrons de la gratitude, c'est la raison pour laquelle nous avons des détails et une liste de choses, nous prendrons l'habitude de montrer de la gratitude. Vous priez chaque jour. Cela signifie que chaque jour, vous vous arrêtez au moins pendant une partie de votre prière pour dire les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Et même si cette liste est « Je peux revenir à mon fils. Je peux revenir à mon fils. Il a 4 ou 5 choses pour lesquelles il est reconnaissant et je ne sais même pas s'il s'entend encore le dire parce que si bla, 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 et puis on en arrive à 2. » Mais même si vous avez une liste pour laquelle vous remerciez Dieu chaque jour, il ne faut pas que cela devienne une habitude. Mais il n'y a rien de mal à répéter les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, parce que vous êtes toujours reconnaissant. La prière est donc un moyen de développer la gratitude. Début du livre des psaumes, psaume 9. Encore un verset, psaume 9, verset 1. Verset 1 du psaume 9, « Je te louerai, Seigneur, de tout mon cœur, et je ferai connaître toutes tes merveilles. » Pour louer Dieu de tout mon cœur, nous devons donc montrer ses merveilles. Comment faire ? Revenons à la première chronique 16. Je saute un peu d'un endroit à l'autre. Première chronique 16, et verset 8. Un seul ici. Première chronique 16, verset 8, rendez grâce à l'Éternel. Invoquez son nom. Faites connaître ses eaux faits au peuple. Lorsque Dieu vous bénit, dites-le aux autres. Lorsque vous avez des bénédictions, dites-le aux autres. Lorsque vous avez des miracles dans votre vie, dites-le, soumettez le rapport de miracle. Dites-le aux autres parce que cela leur permettra de construire leur foi et d'être reconnaissants pour le fait que, d'une part, vous leur avez dit de construire leur foi, et d'autre part, vous aurez du plaisir à raconter les choses que Dieu fait dans votre vie. C'est une autre façon d'être reconnaissant de montrer ses œuvres parmi les gens. Allez au psaume 95. Psaume 95. En restant très attentivement de ce côté du psaume 19. 95, verset 2. Commençons par le psaume 95, verset 2. Approchons-nous de sa face avec des actions de grâce, et faisons-lui entendre des psaumes d'allégresse. Ainsi, lorsque nous chantons des hymnes, il devrait y avoir un élément d'action de grâce lorsque nous chantons. Car l'Éternel est un grand Dieu et un grand roi au-dessus de tous les dieux. Ainsi, lorsque nous chantons pendant le service, nous devons examiner les paroles, regarder ce qu'elles disent, et ne pas nous contenter de les mémoriser. Avec le temps, il est facile de mémoriser les mots ici, simplement en chantant. Maintenant, pensez à ce que vous chantez et ayez un esprit et une attitude de gratitude. D'abord, ce que nous avons, ce que nous chantons, les messages que nous recevons, la vérité que nous avons. Pour développer la gratitude dans nos vies, nous devrions chanter avec gratitude. Allez à la deuxième partie des Corinthiens, la neuvième. Vous voyez que ce qui se répète ici, c'est simplement de le faire. Il ne s'agit pas de chercher différentes façons de le faire, mais de le faire encore et encore. Comme toute habitude, nous pouvons devenir habituellement reconnaissants. Il n'y a rien de mal à cela. Le verset 11 de la deuxième épître aux Corinthiens se lit comme suit, « Enrichi en tout jusqu'à l'abondance, ce qui donne lieu par nous à des actions de grâce envers Dieu pour l'administration du culte, non seulement pour l'un des saints, mais encore pour les nombreuses actions de grâce adressées à Dieu. Ainsi, non seulement nous recevons des bénédictions, mais lorsque nous servons d'autres personnes, cela les rend automatiquement reconnaissantes envers vous. Donc, si vous êtes servi, assurez-vous de montrer de la gratitude, et ensuite cela inspire d'autres personnes parce que c'est une prise 22. Si vous servez quelqu'un, cela l'incite à servir d'autres personnes, car le sentiment est réciproque. Donc, pour développer la gratitude, servez les autres, soyez une bénédiction pour les autres dans votre façon, votre conduite, et alors ils seront reconnaissants et ils vous serviront et vous rendront des services pour lesquels vous pouvez être reconnaissant. C'est une habitude. C'est contagieux. Cela continue encore et encore. Quelles sont les autres façons de conclure? Comme nous l'avons vu, exprimez votre gratitude, non seulement aux frères, mais à tout le monde. Ne quittez jamais l'épicerie sans dire merci. Ou si quelqu'un fait la moindre chose, vous tient la porte, allume une lumière, peu importe, remerciez-le. Les remerciements devraient être automatiques, et pas seulement parce qu'ils sont automatiques, mais parce qu'ils sont sincères. Nous sommes reconnaissants. Merci d'avoir tenu la porte. Vous n'avez pas besoin d'être fou. Merci. Non. Mais on apprécie ce que quelqu'un a fait. Alors exprimez-le. Et il n'est pas nécessaire d'utiliser des mots. Vous pouvez parfois écrire un mot, vous pouvez écrire des cartes de remerciement aux gens qui vous invitent à dîner ou vous offrent des cadeaux. Réfléchissez à ce dont vous êtes reconnaissant. Prenez le temps de méditer sur les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Faites-le quotidiennement. À la fin de la journée, c'est le moment idéal pour le faire, car vous pouvez cataloguer ce qui s'est passé dans votre journée. De quoi êtes-vous reconnaissant? Celle-ci est un peu ridicule, mais je l'ai vue en ligne, et elle est plutôt mignonne. Si vous avez une famille, vous pouvez le faire de manière presque anonyme. Créez un pot de gratitude. Certains d'entre vous s'écrivent des petits mots gentils. Il n'est même pas nécessaire qu'elles portent le nom d'une personne, et quelqu'un d'autre dans la famille vient les ouvrir et les faire sourire, parce que la gratitude nous fait toujours sourire. Aidez les autres. Nous avons vu que nous servions. Lorsque nous rendons l'appareil, les gens sont reconnaissants. Ils ont envie de donner à leur tour, ce qui nous rend reconnaissants. Partagez ce dont vous êtes reconnaissants les uns avec les autres, avec vos amis, avec votre famille. Mettez-le en pratique. Pensez à ce que vous consommez. C'est amusant. Il faut faire attention à ce que l'on consomme pour être reconnaissant des choses que l'on consomme, car si l'on ne fait pas attention à ce que l'on consomme, il peut y avoir des choses que l'on ne devrait pas consommer. Rappelez-vous, nous avons parlé des médias sociaux. Soyez reconnaissant sur votre lieu de travail. Reconnaître les bons résultats d'un collègue, c'est se distinguer des autres. Lorsque vous pouvez féliciter et remercier d'autres personnes pour ce qu'elles font, ou montrer de la gratitude pour leur façon de travailler, ou trouver un moyen de montrer de la gratitude dans l'art avec des cartes ou autres, et la liste peut être longue et longue. L'essentiel est de prendre l'habitude de la gratitude, car cela deviendra notre identité. Cela deviendra tout ce que nous sommes, et alors la force du diable qui essaie de nous attirer vers l'envie s'affaiblira. Elle ne disparaît pas, mais elle s'affaiblit. Lorsque nous avons des épreuves, nous devons être reconnaissants. Lorsque nous avons des bénédictions, nous devons être reconnaissants. Nous devons mettre notre esprit au service de la gratitude par défaut. Soyez satisfaits. Faire confiance à Dieu en sachant qu'il nous donne toutes les choses que nous avons. Et si vous et moi permettons à la gratitude d'être présente, nous devons le faire, pas seulement aujourd'hui, mais vous et moi devons être reconnaissants chaque jour du reste de notre vie, et ensuite pour le reste de l'éternité dans la famille de Dieu.